Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière.
Sur le plateau de France Culture, en direct du Salon du Livre, j'ai la chance de recevoir trois invités prestigieux pour parler de ce qui nous pousse à écrire sur l'art, Dominique de Font-Réau, à ma droite, conservatrice générale des musées de France, directrice du programme culturel du musée du Louvre, et qui vient de sortir un livre extraordinaire, un livre référence, De la Croix, la liberté d'être soi. Et c'est un livre qui est absolument étonnant, car il fait le tour d'un personnage dont nous croyions tout savoir. Vous allez bien, Dominique ?
Oui, merci. Très bien, Jean.
Et à ma droite, immédiatement à ma droite, Georges Duberman, philosophe, historien de l'art, professeur à l'école des hautes études en sciences sociales, mais aussi, je crois, guitariste, passionné de flamenco, par exemple. On peut le dire, hein ? On peut
éventuellement,
tous dire.
Oui.
On peut tous dire. Et donc, auteur d'une soixantaine de livres et qui vient de sortir deux livres. Et nous allons parler plus particulièrement de l'un d'entre eux. Un qui s'appelle « Désirer, désobéir, ce qui nous soulève » aux éditions de Minuit. Et le deuxième, Ninfa Dolorosa, essai sur la mémoire d'un geste, le quatrième livre d'une série sur les ninfas, et que nous allons, dont nous allons parler ensemble. Et troisièmement, Yannick Enel, vous le connaissez tous, l'écrivain si justement et souvent primé, récemment primé d'Issis en 2017, n'est-ce pas ? C'était pour « Tiens, ferme ta couronne », et qui a sorti récemment un livre aux éditions Fayard, « Caravage ». Alors « Caravage », vous vous en doutiez, on l'aime, on adore son aventure, mais ça sera un Caravage de la solitude, c'est-à-dire les parties que vous ne connaissez pas de Caravage. Dominique de Font-Réau, je propose que nous écoutions quelques lignes de ce que vous dites de Delacroix au début de votre livre. Écoutons.
La conception de l'œuvre de Delacroix se révèle singulière. Fin connaisseur de la psyché humaine, intéressé comme le fut Géricault avant lui par les premières analyses psychologiques, Delacroix lia étroitement souvenir et émotion. Son désir de rendre perceptible aux spectateurs de ses œuvres les émotions qu'il avait éprouvées s'accomplissait grâce au secours de la mémoire. La volonté de les garder intactes, la crainte de les voir disparaître nourrissent son travail. Ses dessins, ses écrits, les objets parfois, composent autant de notes pour pouvoir retrouver l'instant éprouvé. Cet amateur de théâtre, ce grand lecteur savait l'importance du choix de l'instant pertinent, celui où l'intrigue bascule. Il fut attentif à garder vives ses idées pour les transcrire avec le plus de vérité possible. Cette vérité n'était pas à ses yeux l'exacte représentation du réel, mais la transcription d'une réalité qui lui semblait, grâce au vertige de l'imagination, plus vraie que la réalité elle-même.
Vous alliez dire quelque chose qui est vrai.
Oui, je disais que j'étais très touchée d'être aussi bien lue.
Et ce n'est pas la seule raison pour laquelle on écrit, et je me demandais pourquoi on écrit un nouveau livre sur Delacroix juste après l'exposition, après le catalogue qui a eu lieu. Il y a encore tant de choses à trouver.
En fait, je crois que on écrit, bien sûr, pour être lu, hein, le partage avec des lecteurs qu'on ne connaît pas, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais on écrit aussi beaucoup pour soi, pour sa propre pensée, d'une certaine manière. Et pour moi, l'écriture, c'est une manière d'aller au bout de quelque chose que la parole seule ne permet pas. L'écriture, d'une certaine manière, me conduit là où je ne savais même pas que je voulais aller. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui me semble absolument primordial.
Alors là, dans le livre, vous êtes fait accompagner largement dans un texte qui est dense, qui est long. C'est un livre magnifique qui pèse 2-3 kilos, peut-être 4, et que j'ai beaucoup aimé lire. Et vous faites le tour du personnage sur des choses que nous ne connaissions que peu, finalement. Parce que vous parlez longuement, il y a un chapitre sur sa famille, un chapitre sur son maître, Guérin. Il y a les artistes qui l'ont entouré, sa passion pour Géricault, l'importance du dessin, la découverte de l'estampe, l'influence de l'Angleterre. Tout ça, ce sont des chapitres. Et effectivement, c'est évidemment un livre, le livre de référence, je pense, maintenant sur Delacroix. Mais vous le faites en cherchant quelqu'un. Et le titre que vous avez choisi, Devenir soi, en fait, hein, c'est la liberté d'être soi, pour être exact. C'est ça que vous racontez.
En fait, Delacroix, évidemment, c'est un artiste très bien connu, très bien étudié par l'histoire de l'art. La très très belle exposition qui a eu lieu au Louvre et au Metropolitan Museum l'année dernière a vraiment été un grand succès et a montré toutes ses facettes. Mais c'est quelqu'un, je crois, qu'on enferme encore beaucoup dans des catégories. On parle d'un Delacroix romantique, on parle d'un Delacroix orientaliste, on parle beaucoup de Delacroix au Maroc.
Vous les racontez, il y a un chapitre entier sur le Maroc qui est absolument sensationnel.
Bien sûr, mais moi j'avais envie d'une certaine manière de lui donner aussi la parole par rapport à ses écrits, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, et ça conduit beaucoup mon livre, c'est que Delacroix lui-même était écrivain et que grâce à la magnifique édition du journal par Michel Hanoche chez Corti en 2009, on a tous les écrits disponibles. Donc chacun des chapitres commence par une citation de Delacroix qui a d'une certaine manière guidé ma pensée et d'une certaine manière aussi qui m'a permis d'aller à la rencontre de Delacroix et au-delà de tous les ismes dont les historiens ou les historiens de l'art pourraient le doter, en fait. Donc aller au-delà de cet enfermement-là.
En fait, essayer de mettre le doigt sur un personnage que l'on croit évident, mais qui est assez mystérieux, parce que il écrit, il est très renfermé, en vérité, tel qu'on le découvre dans votre livre. On l'imagine voyageur romantique, prêt à s'affronter à tous les dangers. En fait, il sort pas beaucoup de chez lui. Hein, c'est un drôle de...
Oui, c'est quelqu'un de complexe, Delacroix. Et c'est quelqu'un de complexe qui a lui-même senti sa complexité. C'est-à-dire, dans l'extrait que vous avez choisi, qui a été si bien lu, on montre le fait qu'il a cette interrogation par rapport à cette propre psyché. Tout ça ne se fait pas en dehors de lui. C'est-à-dire l'interrogation de sa dualité, de sa propre complexité, le nourrit d'une certaine manière. À la fois par moments le freine, mais aussi le nourrit. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est à la fois snob et ouvert sur le monde, casanier mais allant au Maroc, extrêmement généreux dans sa peinture et extrêmement, finalement, parcimonieux dans son don de lui-même. Il est assez complexe, effectivement.
Donc c'est une découverte de lui à travers vous, évidemment. C'est un texte qui est ultra informé, accompagné par des images parfois répétées pour qu'elle puisse suivre le texte, avec des dessins qui sont emportés, qu'on voit rarement, parce qu'on connaît mal les dessins de Delacroix. Vous connaissiez un peu les dessins de Delacroix, vous, Georges ?
Oui, notamment, j'ai travaillé sur les deux esquisses de La liberté guidant le peuple. Et c'est intéressant, parce que le peintre de La liberté guidant le peuple... Ça devient chez vous le peintre de la liberté d'être soi. Ça va tout à fait ensemble.
Pour être tout à fait honnête, c'est lui-même qui dit, en parlant de Rubens, mais comme quand Delacroix parle de Rubens, il parle de lui en fait, en disant que la magie du grand artiste, c'est d'être fidèle à l'idéal qu'il porte en lui. Et donc finalement fidèle à sa propre liberté.
Alors, il y a quelqu'un qui a écrit aussi dans notre petit consortium d'aujourd'hui sur un artiste en se recherchant lui-même, c'est Yannick Enel. Yannick Enel, vous avez parlé de Caravage, vous en avez parlé magnifiquement dans ce livre, mais curieusement, vous l'intitulez le Caravage et ses silences, vous parlez des silences de Caravage, comme si ce personnage tumultueux, cet extraordinaire bretteur, ce mauvais garçon qui a fait la légende, au fond, du peintre, eh bien, c'est pas celui-là que vous cherchiez.
Ah, mais j'aime bien la légende du Caravage. J'aime son côté irascible, véhément, guerrier. Mais il me semble que sa peinture relève d'une expérience intérieure. Il me semble que sa solitude est avant tout celle de quelqu'un qui cherche de manière absolue un lieu pour le coup, intérieur. Le fameux clair-obscur dont on nous rebat les oreilles concernant le Caravage, c'est là qu'il a lieu, c'est là qu'il opère, dans ce lieu intérieur, dont la parole, dont la peinture va être, va être un retrait silencieux. J'ai beaucoup, ces dernières années, revu les tableaux du Caravage en me disant qu'il y avait là un calme, une méditation très paradoxale pour quelqu'un d'aussi violent et pour quelqu'un qui représente des scènes dont l'intensité est criminelle. Voilà, moi je pense que les peintres sont des artistes qui travaillent parmi les plus, enfin ils n'arrêtent pas. Donc le Caravage se battait, le Caravage aimait la vie orgiaque, le débordement, l'ivresse, sauf que ce qu'il faisait le plus au monde, nuit et jour, c'était de peindre. Donc voilà, à la manière de... J'ai emprunté volontairement ce terme à Georges Bataille. J'ai cherché, avec peut-être un peu d'impudence, je ne sais pas, en improvisant, ce qu'avait bien pu être l'expérience intérieure d'un tel homme. Expérience intérieure qui va d'une forme de paganisme. Il est obsédé par Dionysos, par Bacchus. Il peint des ragazzi qu'il va ramasser dans la rue. Il leur met une grappe de vigne sur la tête. Il en fait des dieux comme ça, un peu hilares. Mais il va aussi vers le Christ. Ça, c'est l'autre aspect.
On sent toujours le caractère très inquiet. Alors, je propose qu'on écoute une seconde la façon dont vous motivez votre désir d'écriture. Écoutons vous.
En écrivant ce livre, je cherche à préciser une émotion. Ce qui n'est pas précis existe à peine. Seul importe la minutie. Il faut que les mots trouvent leur chair. Il faut qu'il serre au plus près le point qui nous brûle. Le monde est un nid de détails. Et si nous ne parvenons pas à désigner ces étincelles sensuelles, non seulement elles nous échappent, mais elles appauvrissent notre désir, qui peu à peu s'efface, devient approximatif, de plus en plus flou, et bientôt inexistant.
Sur France Culture en direct du Salon du Livre et vous venez d'écouter un extrait du livre de Yannick Hennel, La Solitude Caravage, et nous parlions de ce désir d'écrire qu'il y a pour chercher, c'est celui qui est le plus éclatant, et bien quelque chose qui est le silence de l'atelier, l'inquiétude. L'inquiétude, vous revenez souvent là-dessus, et cette inquiétude, on la voit par exemple dans un tableau extraordinaire que vous citez à plusieurs reprises, qui n'est pas celui qui a motivé le livre. Celui qui a motivé le livre, on y reviendra tout à l'heure, c'est le fameux tableau Judith Holoferne. Je pense plutôt à la vocation de saint Matthieu.
Bien sûr, c'est là qu'on voit, bon, qu'on peut voir à Rome, à l'église Saint-Louis-des-Français.
Vous pouvez nous le décrire ?
Alors effectivement, il y a dans une taverne, autour d'une table, on se croirait dans un tripot, des gens qui sont en train de compter de l'argent. Et sur la droite, quand on regarde le tableau, ils sont dans la pénombre. Sur la droite, semble arriver dans cette taverne, on ne sait comment, deux hommes dont l'un va tendre son bras, qui va traverser entièrement la scène et qui va provoquer une sorte de déchirure entre les ténèbres dans lesquelles sont plongés les hommes autour de l'argent et une nouvelle forme de lumière. Ce bras, ce doigt tendu très mollement, qui imite celui que Michel-Ange a peint sur la chapelle Sixtine, c'est celui du Christ. Et ce bras désigne l'un des hommes qui est en train de compter de l'argent, qui s'appelle Lévi, et qui va devenir Matthieu. La vocation, c'est un appel, en fait. Jésus appelle cet homme à venir le rejoindre. Alors même que c'est un homme qui est perdu par le calcul, et Jésus va opposer à ce calcul une gratuité qui est celle de la lumière. Donc ici, effectivement, le fameux clair-obscur, il est mis en situation, il est in situ. La lumière arrive pour percer les ténèbres, comme au début des évangiles. Voilà. Et voilà, là, on a vraiment l'expérience tout intérieure, frémissante, sensible, d'un peintre qui, si on le regarde longuement, parce que je pense qu'on regarde jamais assez longuement dans les expositions les tableaux, si on passe des heures au fond, on refonde sa sensibilité. C'est Baudelaire qui disait qu'il y a un épaississement de la sensibilité. Il disait ça à la fin du 19e. Aujourd'hui, c'est 100 fois pire. Regardez des tableaux, essayez de trouver les mots pour ce silence-là. C'est affiner sa sensibilité.
C'est un sujet, Georges Duberman, que vous abordez dans votre livre. On en parlera dans quelques instants. Mais simplement parce que Yannick nous tend cette perche, la question du ralentissement devant l'image.
Non seulement c'est un ralentissement, mais quand on est touché par une œuvre, par une image, tout s'arrête. Tout s'arrête. Non ? Tu n'as pas cette impression ? C'est-à-dire que, en particulier, la vocation de Saint-Matthieu, quand on découvre ce tableau à Rome, c'est intéressant parce que Yannick Enel vient de parler de... d'un aspect narratif en quelque sorte, et puis ça virait sur le clair-obscur, c'est-à-dire qu'on est, il y a l'espace d'un roman possible, mais en même temps il y a une sorte de mystère de la peinture elle-même, clair-obscur. C'est pas évident, hein, en termes de palette et de travail. Et cette chose-là nous laisse, enfin moi j'ai toujours cette impression d'être quoi? C'est-à-dire, quand je rencontre une image intense, je suis quoi? Donc, je me demande, mais quoi? 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 Comment? Depuis quand? Comment est-ce possible? Qui que quoi? Bon. Et ce qui, moi, me demande, en fait, ce moment de mutité que j'adore, mais en fait, que je n'aime pas, parce que aussi, il faut absolument trouver de nouveaux mots. C'est-à-dire, moi, ce qui me fascine devant la peinture, en particulier, ou devant la sculpture, c'est qu'elle nous oblige à reformuler nos phrases, notre langage.
C'est peut-être ça, l'appel à l'écriture dont nous parlions tout à l'heure. Dominique de Fonréau, est-ce que vous avez l'impression, un petit peu comme Mathieu, curieux, dans son bureau de douane, a pu l'avoir, d'avoir été désigné, appelé, désigné par le tableau, désigné par l'artiste pour... écrire ce livre,
ce serait quand même un tout petit peu présomptueux de ma part.
Je sais que c'est pas Jésus qui est venu.
De me prendre pour Mathieu.
Mais de la croix, vous avez fait signe.
Mais je pense qu'il y a toujours un peu un signe. Ça, c'est certain. Je pense que ce que Georges vient de dire à l'instant, il y a quelque chose de l'ordre de la sidération en fait dans la rencontre avec l'œuvre peinte. Quelque chose qui nous laisse effectivement relativement muets. Et avec la difficulté de dépasser cette aphasie à la fois de la langue et parfois aussi de l'esprit, pour être honnête. Et ce que je trouve absolument fascinant dans la peinture, que maintenant je fréquente depuis assez longtemps, c'est que sidération est ensuite suivie de quelque chose qui permet différentes rencontres avec différentes significations. C'est-à-dire que le propre du chef-d'œuvre, c'est jamais de se limiter à une seule signification. C'est finalement de résister à toutes et donc de pouvoir être toujours réinterrogé. Et ça, je trouve ça très, très fascinant.
Les œuvres sont absolument ouvertes, Georges Duberman.
C'est à nous de nous ouvrir.
Ah oui, c'est vous inversez la proposition de Umberto Eco.
Tout à l'heure, Yannick Enel parlait de l'expérience intérieure et il faudrait pas. Alors la référence à Bataille, elle est très importante. Il faudrait pas imaginer que l'expérience intérieure, c'est moi qui vais me refermer sur moi-même comme l'idée qu'on a d'un mystique, par exemple. Pas du tout. L'expérience intérieure pour Bataille, c'est exactement le contraire. On ouvre son intérieur, et c'est bien ce qui fait que, d'ailleurs, chez Caravage, il y a autant d'intérêt pour le dehors, pour des sujets qui n'ont jamais été véritablement approchés. Je dis bien approchés parce que c'est des gros plans, souvent, Caravage. C'est-à-dire le lumpen prolétariat, pour aller très vite, des gens qui n'avaient pas droit de représentation. Donc, son expérience intérieure, c'est d'avoir un rapport beaucoup plus... j'oserais dire pasolinien, au dehors, à ce qui se passe.
Alors
dehors.
Yannick Enel, vous vous êtes ouvert, vous avez été, c'est un livre impudique.
Ah mais je crois que je suis allé très loin dans la dénudation, j'ai un peu honte, mais quand on a tellement honte, il vaut mieux y aller carrément. L'écriture c'est ça au fond, il s'agit de déchirer le visible, comme font les peintres. Caravage, il peignait au couteau, et ce couteau, j'aime bien votre référence à Pasolini, c'est... Écrire au couteau ou peindre au couteau, c'est ne pas s'épargner soi-même, déjà, d'une part. et puis aussi aller voir si dans le visible il n'y aurait pas quelque chose qui ne cesse de se réserver, une violence intime qui se donne au fond. C'est vrai que je suis d'accord avec Georges Huberman, au fond on peut tout demander à la peinture, moi je demande tout, je veux être comblé comme dans l'amour au fond. Je veux être comblé, mais il s'agit aussi de faire en sorte de pouvoir être comblé, de se rendre disponible à la peinture. Et moi, j'arrive pas à penser autrement qu'en écrivant. Donc, devant les tableaux, j'écris. Il y en a qui les redessinent, il y en a qui, je sais pas, enfin, qui ont besoin d'être guidés avec des audio guides. Moi, j'ai besoin d'écrire. J'écris tout le temps, et je pense que c'est comme ça que je me
que vous
déchire
ouvrez.
Le thorax pour m'ouvrir. Oui.
J'ai l'impression que c'est le point commun entre vous trois. En tout cas, c'est votre raison d'être là. Et Georges Huberman, vous avez donc vous venez de publier chez Gallimard La Ninfa Dolorosa, essai sur la mémoire d'un geste. Et alors, c'est un essai qui est lié à deux éléments principaux, si je puis dire. Une photographie très étrange de 1990 de Georges Mérillon, qui est un reporter de guerre et qui a fait une photographie très marquante. Mitterrand était l'un des premiers à la commenter, bizarrement. Et cette photographie a été œuvrée, en quelque sorte, par un autre artiste qui s'appelle Pascal Convert. C'est ça le point de départ de votre travail sur ce livre.
Alors, je m'intéressais au thème déjà depuis très longtemps. Je m'intéressais au thème dans la peinture de la Renaissance, dans la sculpture de Donatello, voilà. Et puis, bon, il se trouve que Pascal Convert, c'est un ami de très longue date. J'ai vu chez lui surgir ces problématiques, notamment j'avais travaillé sur la sculpture en cire, je lui avais présenté les gens du musée Grévin, et donc il a utilisé cet artisanat du musée Grévin, comme Donatello l'avait fait à la Renaissance d'ailleurs, pour faire des œuvres très mystérieuses, des œuvres en négatif, en cire, toutes blanches, notamment une qui est, malgré cette espèce d'abstraction, qui est calqué en quelque sorte sur cette photographie de presse, voilà. Alors écrire là-dessus, ça veut dire écouter l'artiste, écouter le photographe. Je suis allé voir le photographe, je lui ai demandé.
Vous pouvez redire un petit peu les circonstances et même décrire la photographie en question.
Alors la photographie qu'on a appelée bien ou mal la Pietà du Kosovo, elle représente un groupe de femmes musulmanes kosovar qui pleure un des premiers morts de à l'époque en 90. Nous sommes presque 10 ans avant la fameuse guerre du Kosovo, mais ce sont les prémices, ce sont des jeunes gens qui manifestent dans les rues pour l'indépendance du Kosovo et la police serbe leur tire dessus. Voilà, donc c'est un premier mort. Et Georges Mérillon, dans des conditions extrêmement précises. Enfin, ça, c'est vraiment très intéressant de voir comment justement cet homme qui n'est, je dirais que ce n'est pas un artiste, c'est un reporter de guerre, hein, c'est un reporter, il fait un Caravage, hein, voilà.
C'est-à-dire qu'il rejoint absolument des représentations et des positions et des gestes que nous connaissions depuis toujours.
Oui, mais ça serait une erreur de penser que c'est lui, que c'est son inconscient artistique, ou que sais-je, parce qu'il a eu 30 secondes pour faire sa photo, il n'a pas pu bouger tellement il y avait de monde dans la pièce, donc il n'a pas choisi le cadre. Donc, en fait, ce qui nous renvoie à cette longue durée, ce sont les femmes elles-mêmes, comment elles sont ensemble elles-mêmes autour du mort. Et ça veut dire que si on veut parler de ces images, il faut être anthropologue, il ne faut pas seulement être historien de l'art.
Alors c'est une lamentation, alors c'est très important, anthropologie de l'art, exploration de ce qu'est l'humain à travers l'art et pas seulement exploration de l'histoire. Écoutons, Georges, si vous le permettez, votre description de la Pietà du Kosovo telle que Pascal Convert l'a transformée.
Nous sommes bien loin de tout cliché. Rien dans cette masse ne nous donne le signe disponible, l'extrait reconnaissable, le clip ou le spot de quoi que ce soit. Le langage lui-même est privé de ses propres clichés. Devant cette masse de silence, les repères de signification ne sont pas donnés à l'avance. Ils sont à construire sur le moment de mutité qui nous saisit d'abord, nous interloque. Il faut donc un peu de patience. On regarde, on attend, on questionne. Tout à coup, surgit ce qu'on n'attendait pas. Et l'on découvre que ce frémissement blanc, agité comme une grande draperie, est en réalité une image à tue-tête. Une image qui hurle, qui tempête, qui proteste devant nous. Toutes ces vagues de cire drapée, tous ces creux ne sont que des formes de cris et de douleurs émanées d'une dizaine de figures féminines réunies autour d'un corps étendu, probablement un cadavre.
Écoutez l'art et la matière, nous sommes sur le plateau du Salon du Livre en direct et je suis avec Georges Duberman, Dominique de Fonréau, Yannick Enel et nous venons d'entendre un extrait du livre Ninfa Dolorosa qui vient de paraître aux éditions Gallimard, un livre donc de Georges Duberman. Ce corps, ce cadavre devant lequel on se trouve, est-ce que vous voulez suggérer que c'est le même que celui de la Pietà de Michel-Ange, le même que celui de Donatello sur la porte de Florence ?
Évidemment non, c'est pas le même. Simplement, le Christ mort, c'est un mort qui arrive après des millions de morts. C'est pas le premier mort non plus, le Christ. Hein. Donc, la grande difficulté qui a d'ailleurs provoqué beaucoup de polémiques autour de cette image de Georges Mérillon, d'abord, la photographie, c'est qu'on l'a appelé Pietà alors qu'il s'agit de femmes kosovares musulmanes. Donc, vous imaginez le genre de polémique qu'on peut faire, l'esthétisation, la captation d'une religion par une autre, etc. En fait, si on regarde précisément comment cette photo intervient dans le contexte où elle a été faite, c'est-à-dire le Kosovo. Donc, moi, j'avais pas grande connaissance du Kosovo avant de me plonger là-dedans, mais le Kosovo, c'est un endroit, c'est une sorte de croisement dans lequel les questions christianisme versus islam ne se posent pas du tout comme on les pose aujourd'hui. Donc, si vous voulez, c'est très intéressant de voir, par rapport aux polémiques d'aujourd'hui sur ces questions, comment, par exemple, au début du siècle, du XXe siècle, en Albanie ou au Kosovo, vous avez des femmes complètement voilées, qui sont des catholiques, et vous avez des femmes dévoilées qui sont des musulmanes, par exemple. Cet échange des iconographies, il faut la penser, et mon outil pour penser ça, c'est l'histoire de l'art de Abi Warburg, qui avait émis l'hypothèse que toute image est le fruit d'une migration.
Qu'est-ce que ça veut dire, le fruit d'une migration ? Éclairez-nous. Ça veut dire que les images se déplacent, la structure des images se déplace de siècle en siècle, de région en région, c'est ça que ça veut dire ?
Warburg était un spécialiste de la Renaissance. Donc il prend un jour comme objet les fresques astrologiques de Ferrare. C'est un chef-d'œuvre de la Renaissance italienne. Nous sommes au centre de l'histoire de l'art occidental et nous sommes au centre de la géographie de l'art occidental. Et bien il dit, si on ne comprend pas comment les théories astrologiques de Abu Amasar, qui venaient de Syrie et de Bagdad, sont venues jusqu'en Italie, on ne comprend rien. Regarde, qu'est-ce que c'est un timbre-poste ? Un timbre-poste, c'est l'image par excellence. C'est une image qui est faite pour traverser les frontières. Une image traverse les frontières. Il faut bien voir ça. Une image n'est jamais autochtone. D'ailleurs, je ne sais pas si les gens sont autochtones en général, ça c'est une autre question, mais ce qui est sûr, c'est que les images ne sont jamais autochtones.
Et donc la migration des images, c'est-à-dire la façon dont tout d'un coup, dans un drame, avec à une heure particulière, avec un peu de buée dans la salle où ça se trouve, rejoignent une histoire de l'art, alors que ce n'est même pas une image d'artiste, c'est le miracle de notre attention à cette image qui est relevée parce que nous sommes habités par cette histoire de l'art.
Alors, dans mon enquête sur cette image, j'ai interrogé des ethnomusicologues. Parce que s'il y a une lamentation, il y a du son. Il y a du cri, il y a du chant, il y a de la profération, il y a du rythme. Et les ethnomusicologues, la première chose qu'ils m'ont dit, ils sont spécialistes de cette région, ils m'ont dit ce qui nous a toujours frappé, c'est que les gens se mettent ensemble quand ils sont dans une lamentation comme une sculpture, c'est-à-dire comme les compianti qu'on voit en Italie au XVe siècle et qu'on retrouve chez Caravage. Donc la forme, c'est pas la prérogative seulement des artistes. Les gens se mettent ensemble. Là, par exemple, vous êtes en face de moi, je vois une. Vous êtes dans un rapport, vous formez une forme. Vous formez, bon voilà, quelle forme, une agora, je ne sais pas quoi. Mais la forme, elle est anthropologiquement compréhensible avant même toute mise en forme artistique. Les artistes n'ont pas la solution de tout, il ne faut pas croire ça.
Alors derrière cela, évidemment, c'est l'humain que nous explorons. Et Dominique de Fonréau, vous entendez Georges Didier Huberman parler de ces migrations d'images. Ça, on le sent chez... Il y a des images migrantes qui sont arrivées jusqu'à Delacroix ?
Ah, arrivées jusqu'à Delacroix, oui. Parce que je me demandais s'il y avait une image de Delacroix qui était devenue migrante. Alors évidemment,
non.
On pensait tous à la liberté guidant le peuple.
Oui, ça, qui est devenue une icône mondiale. Pour la Chine.
C'était, je crois,
Après avoir été refusé, d'ailleurs.
Après avoir été, en fait, non, acheté par l'État, mais ensuite remise en réserve, en fait. Mais,
Pendant longtemps.
Pendant longtemps, puisqu'elle ne ressort vraiment qu'avec la Troisième République en 1874.
Il a vraiment fallu que Delacroix insiste.
Il est mort, même, quand elle revient, en fait, puisqu'elle revient après, au moment de la Troisième République. Il meurt en 1863, elle revient en 1874.
Parce qu'elle était le symbole de la monarchie ou de la lutte contre la monarchie.
Parce que c'était le tableau des barricades.
C'est ça.
C'était le tableau des barricades. Donc c'est comme ça que Delacroix l'appelait. Donc c'est vrai que la monarchie de Juillet l'acquiert au salon de 1831, mais très vite, après les massacres, notamment ceux de 1834, c'est plus possible de la montrer. Alors elle ressort pour l'exposition universelle de 1955, néanmoins, au moment de l'exposition de Delacroix. Et puis surtout, elle devient l'icône de la Troisième République. Elle devient finalement le symbole de la République en tant que telle. Mais la question que vous me posiez, pardon Jean, c'est moi qui répondais à une question que vous ne m'aviez pas posée, c'était s'il y avait des images migrantes pour Delacroix. Oui, bien sûr, il y en a eu, et notamment, par exemple, les plus fortes pour Delacroix, certainement, ce sont celles de Rubens, par exemple, qu'il voit pour partie, mais qu'il connaît aussi par l'estampe. Et,
un des rares voyages qu'il fait, d'ailleurs, c'est aux Pays-Bas pour voir les Rubens.
Il fait exprès d'aller à Anvers en 1850 pour voir les Rubens, et il monte même pour aller regarder attentivement la magnifique déposition de croix de la cathédrale. Et c'est migrant parce que, d'une certaine manière, Rubens lui dicte à la fois des œuvres qu'il copie, il fait des copies directes des Rubens, mais par exemple la composition de l'Héliodore chassé du temple de Saint-Sulpice est aussi reprise pour partie de la déposition de croix de Rubens. Donc on est très loin d'une certaine manière du sujet. Donc il y a cette manière de s'approprier et de déplacer le sujet même de la peinture initiale. Ou la même façon aussi Delacroix est de son temps. Donc quand il est passionné par les chasses au lion de Rubens, cette espèce de fureur.
Lui, il va aller chercher au Jardin des Plantes.
Et lui, il va aller chercher au Jardin des Plantes. C'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est-à-dire qu'il va aller chercher dans le réel de son temps. Et parce qu'il est aussi de ce 19e siècle-là. Et c'est ça que je trouve.
Il y a quelque chose qui m'interpelle, et j'aimerais que vous en disiez un mot, puisque, évidemment, tout à l'heure, Georges Huberman parlait de l'Assemblée qui est devant nous et disait, au fond, vous êtes aussi une forme. La première forme collective, c'est la barricade. Ça, vous me contrarierez pas là-dessus, Georges Huberman, n'est-ce pas ?
Mais la barricade, c'est... Comment dire c'est le torrent révolutionnaire fait de briques et de brocs qui... Parce qu'une barricade, c'est pas toujours comme ça. Hein. Une barricade, c'est pas seulement un dispositif défensif. Ça recule, ça avance, voilà. Mais pour revenir à la liberté guidant le peuple, c'est une liberté, donc c'est une allégorie de la liberté. Normalement, sur une barricade, il y a plutôt un chef de révolutionnaire avec son fusil, etc. Il n'y a pas une fille qui montre son sein. Voilà, pourquoi cette allégorie ? C'est aussi parce qu'il y a quelque chose de très, très ancien. C'est la victoire. C'est l'iconographie. Oui, Niké. C'est la victoire de Samothrace, si vous voulez. La victoire, c'est une figure donc antique, grecque. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est une figure qui sert de proue. Elle est toujours devant. La victoire est devant. Et donc, le tableau, il est inépuisable, hein, ce tableau de la croix.
Ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, Samothrace est découvert juste au début de l'année 1860 et n'arrive au Louvre qu'après la mort de Delacroix. Mais c'est certain que le succès de ces deux icônes, quand elles sont installées ensemble dans les années 1870 dans le Louvre de la Troisième République, c'est parce qu'elles sont aussi des figures de la République. Elles sont, et qu'elles puisent à quelque chose qui est la victoire antique. Parce que d'une certaine manière, elles redoublent le même motif. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Delacroix n'avait pas pu voir la victoire de Samothrace, mais s'est inspiré d'autres victoires antiques.
Alors j'aimerais, parce que là nous sommes passés, comme dirait Didier Berman, nous sommes passés des larmes aux armes, n'est-ce pas ? Et je voudrais qu'on revienne aux larmes, parce qu'il y a une question qui est fondamentale et dont on va essayer de parler ensemble, je crois, et qui, au fond, vous permet de vous rejoindre. C'est la question de la relation entre l'artiste, l'art, l'œuvre et le mal. Parce qu'il y a un moment, Yannick Enel, où vous dites, par exemple, au chapitre 16, vous dites « Quelqu'un en 1600 est capable d'entrer à la force du pinceau dans la matière du mal ». Et ça, c'est quelque chose dont on entendait parler tout à l'heure. Vous avez cité Bataille. Évidemment, c'est un des grands sujets de Didier Berman. C'est un des grands sujets également de Delacroix. Dominique, puisque je parle de Delacroix, un mot sur Delacroix et la question du mal. On pourrait parler de Géricault, d'ailleurs, tout aussi bien.
Oui, pour Delacroix, la question du mal, je pense qu'elle est très cruciale dans la mesure où il appartient à une des premières générations d'artistes qui, comme Géricault, hein, que vous venez de citer, intègre complètement que le mal n'est pas extérieur à soi, mais que le mal et le bien sont en nous-mêmes et en chacun d'entre nous. C'est-à-dire, il y a cette compréhension-là de quelque chose d'un mal intérieur. Et j'évoquais tout à l'heure les chasses aux lions, mais ce serait de la même façon pour les combats entre tigres et lions et des animaux domestiques, par exemple des lions terrassant un cheval ou des tigres se battant. Il y a chez Delacroix, dans cette opposition-là, l'opposition à la fois du sauvage intérieur et du domestique intérieur. Nous sommes à la fois le lion qui déchire et le cheval qui est victime. Et dans cette tension-là, il y a quelque chose qu'il cherche à exprimer. Delacroix dit de la peinture, et c'est aussi pour faire plaisir à Yannick Enel que je le dis, parce que quand il le dit, c'est à propos de Jacob et l'ange que Yannick aime tant, hein, et que je sais qu'Yannick aime tant. Il dit à propos de cette peinture que ça a été un corps à corps. Il parle de violence, il parle de tension, il parle de dépassement de soi, y compris de ce qu'il y a de plus puissant en soi dans des forces obscures. Donc, ce qui est intéressant dans cette première génération avec Géricault et Delacroix, c'est que le mal ne devient pas quelque chose d'extérieur, mais c'est quelque chose qu'on porte en soi et dont on doit être, non pas forcément vainqueur, mais dont on doit être vainqueur de l'expression, en tous les cas.
Yannick Enel, est-ce que c'est ce mal-là dont nous parlons, ou est-ce que c'est le mal absolu, le mal comme ressort total de l'exploration de l'impossible ?
Je dirais que concernant le Caravage, c'est la criminalité de l'espèce humaine.
C'est ça. Hein.
Le Caravage, tout comme Delacroix, tout comme Bacon, au fond, ne sont pas des gens qui aiment le mal. Ils ne sont pas pour le mal, pas non plus pour le bien d'ailleurs. Ils témoignent de quelque chose qui est à l'œuvre dans le genre humain. Et ils ont quelque chose qui fait qu'ils peuvent enregistrer nerveusement ce mal à l'œuvre. Alors, le mal est toujours absolu. Et il y a un tableau, qui fait face à la vocation de Saint Matthieu à Rome, c'est le martyr de Saint Matthieu. Et ce à quoi on assiste, c'est à l'assassinat d'un prêtre alors même qu'il est en train de dire la messe. On égorge un prêtre dans le sanctuaire. Dans les lettres de Saint Paul, enfin Saint Paul appelle ça le crime d'iniquité. Le crime d'iniquité, ça signifie, bon, c'est énorme métaphysiquement, mais ça signifie que en tuant quelqu'un, on tue toute l'humanité. On rend impossible le fait qu'il y a encore de l'innocence. En allant tuer un prêtre comme ça, qui est en train de finir sa messe, il y a l'idée qu'il faudrait plus jamais que ça existe, l'indemne. Et le Caravage peint ça avec une conscience philosophique, si je puis dire, énorme.
Et son visage de l'autre côté.
Voilà. Il se trouve que dans ce tableau, on le voit tristissime, si je puis dire, en usant d'un italianisme. On voit le Caravage qui assiste à cette scène, qui est déjà en train de sortir du tableau, et dont l'impuissance est aussi l'un des sujets. L'impuissance face au mal. On peut témoigner du mal, mais il semblerait qu'à part Dionysos ou Jésus, à part être un dieu ou une déesse, on ne peut pas vaincre le mal. Et il y a cette conscience très douloureuse. Le Caravage n'est pas un peintre de la plainte ni de la lamentation, mais c'est un peintre qui ne fait qu'assister à cette scène dont Georges Duberman nous parle. C'est la scène originelle, c'est quelqu'un meurt et on est autour. Jusqu'à quel point est-ce qu'on est impliqué dans cette mort ?
Est-ce que c'est ce mal, Georges Duberman, qui est à l'origine de vos soulèvements ? Pour reprendre le titre d'une exposition que vous avez fait au Jeu de Paume il y a 2 ans.
En fait, ce qui s'est passé dans une certaine durée dans mon travail, c'est que je me suis beaucoup intéressé donc à ces phénomènes de lamentation, parce que c'était une énigme aussi bien iconographique, iconologique, ethnologique, historique, politique, tout ce qu'on veut. Et puis, petit à petit, est venu le motif. C'est un motif politique, le motif du mal. C'est un motif métaphysique, mais politique tout aussi bien. C'est Brecht qui dit qu'il n'y a pas d'autre sujet pour l'art que le désordre du monde et le mal. Et ça se voit chez Homère. Homère, déjà, c'est une guerre sanglante. Ça commence très mal, la littérature européenne. Et des points très importants, comme Goya, comme Picasso, comme... voilà. Bien sûr, le mal, il est un objet fondamental de la figuration. Maintenant, en face du mal, il y a 2 choses possibles. C'est subir ou faire autre chose que subir. Alors moi, ce qui m'a fasciné dans ces lamentations, c'est de voir comment les gens subissent. On subit le mal, on subit un deuil, on subit une perte. Et que dans ce pathos, puisque c'est le mot grec pour subir une épreuve, dans ce pathos, il y a quelque chose qui se lève, qui se soulève, et qui devient, comme chez Antigone par exemple, si on prend des exemples anciens, qui devient une force de soulèvement. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe entre le deuil et le désir. Comment du désir peut survivre à un deuil ? Voilà.
Alors, je ne sais pas, bataille que vous avez citée tous les deux dans votre conversation et dans vos livres, considère que l'art est le grand jeu qui nous permet de nous confronter au mal et qu'on ne peut le surmonter qu'à travers l'art. C'est ça sa fonction principale, probablement.
Ce n'est même pas surmonté, à mon avis. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yannick, mais je ne dirais pas que c'est surmonter le mal, c'est confronter le mal, c'est le recevoir et faire ce qu'on peut avec ça, c'est le surmonter, je n'en suis pas sûr. Est-ce qu'un art est fait pour recoudre les plaies ? Pas exactement. Il est fait pour souligner aussi les plaies.
Pour les rendre visibles, me semble-t-il, j'ai l'impression. Il y a un extrait du journal de Delacroix que je cite dans mon livre, au moment où je parle de son enfance, où il raconte un épisode de sa vie quand il est à Marseille avec son père, qui est alors à ce moment-là préfet des Bouches-du-Rhône. Et alors, à en croire Delacroix, c'est bien sûr impossible, donc ça n'a pas pu se passer comme ça, mais il aurait été en l'espace même pas d'une après-midi, à la fois ébouillanté, victime de poison, noyé dans le Vieux-Port, enfin donc tout ça n'est évidemment impossible. Mais pour qu'il l'exprime comme ça, c'est qu'il a cette conscience très aiguë de cette violence qu'il a subie, qu'elle soit réelle ou métaphorique, ou qu'elle soit simplement mémorielle ou imaginaire. Et je pense aussi, me semble-t-il, que peut-être que le propre de l'art, et du certain point de vue pour Delacroix, dont les œuvres ne sont pas exemptes de violence, pensez à la mort de Sardanapale, par exemple, qui est absolument terrifiant, je pense que c'est aussi... mettre les blessures à nu, rendre le mal visible, qu'il soit là. Sardanapale, juste pour le rappeler à nos auditeurs, c'est inspiré de Byron et ça représente donc Sardanapale, héros négatif qui est condamné à mourir et qui, plutôt que mourir tout seul, met le feu à son palais après faire égorger ses femmes et ses chevaux.
Ses esclaves, ouais.
Donc c'est le mal.
Alors, il y a une personne qui s'est soulevée d'une façon très particulière contre l'oppression, c'est Judith face à Holoferne. Je vous propose d'écouter la description qu'en fait Yannick Enel.
Ce jour-là, j'ai regardé de tous mes yeux la jeune femme empoigne d'une main les cheveux de l'homme et de l'autre lui découpe la carotide. L'agonie de l'homme est épouvantable. Les yeux révulsés, la bouche tordue en un cri infect, il tente dans un dernier sursaut de s'accrocher au drap, déjà maculé de sang. Et à droite en bas, les traits de la servante sont exorbités par une jouissance noire, louche, presque sale, qui lui vient de la contemplation du crime. Elle serre entre ses mains le sac de toile brune où sera bientôt fourrée la tête de l'homme. L'air si préoccupé de la jeune femme, ses sourcils froncés que j'aimais tant, où je voyais le signe le plus délicat de la noblesse d'esprit, lui venait en réalité de la besogne qu'elle accomplissait, consciencieusement.
France Culture en direct du Salon du Livre. Yannick Enel, on vient d'entendre cette description de Judith Holoferne qui est la source de votre livre. Et tout d'un coup, dans cette source qui à l'origine du livre est une érotisation du regard, eh bien il y a le drame, l'épouvante, puisque vous ne connaissiez pas, quand vous l'avez aimé au début, la totalité du tableau, vous ne connaissiez que cette silhouette sensuelle, comme on pourrait connaître que le dos de la jeune femme de Delacroix dans Sardanapale et s'émouvoir sans imaginer que c'était le théâtre d'un désastre.
Ben, c'était un bon résumé de la violence de l'existence elle-même. Je suis tombé amoureux à 15 ans dans un pensionnat militaire, effectivement, d'une représentation amputée, si je puis dire, c'était le visage et la gorge de Judith. J'aimais particulièrement ses sourcils froncés qui rimaient avec la manière dont son corsage était noué, son corsage était froncé également. Et voilà, comme sur la couverture du livre. Je me demandais bien ce qu'elle faisait avec ses bras. Je voyais bien que le froncement de sourcils la préoccupait et me préoccupait aussi. Mais bon, voilà, j'avais 15 ans, je m'en fichais. Je jouissais, si je puis dire, de cette figure peinte. Et ça s'appelle la sublimation, tout simplement. Le jour où, 15 ans plus tard, j'ai vu le tableau en entier, quelle ne fut pas ma stupéfaction, comme on dit dans les mauvais romans. J'ai vu qu'effectivement, ses bras étaient occupés à découper la carotide d'un homme, d'Holoferne. J'ai compris qu'il s'agissait de Judith, qui libère le peuple juif, si je puis dire, et la ville de Béthulie, qui est assiégée par les Assyriens, Holoferne étant le général assyrien. Et en tuant de manière spectaculaire, et je crois que c'est la première fois qu'on représente ce crime-là en direct, si je puis dire. D'habitude, on voit Judith dans la peinture plus classique en train d'exhiber le trophée, la tête. Mais là, le Caravage montre le crime lui-même.
Comme il montre la découpe exacte de la tête de Saint-Jean.
Mais exactement. À la Valette, ouais. Sauf que là, il ne s'agit pas d'un crime d'infamie, c'est un crime qui libère. Georges Duberman parlait de résistance. La résistance, ça peut se faire par les armes. Ça peut être une réplique à la violence.
Ou par le charme, en l'occurrence.
Par le charme aussi, mais à la fin...
Parce qu'elle a charmé Holoferne pour parvenir à l'approcher.
C'était la seule solution pour entrer, pour pénétrer chez l'ennemi dans la tente, soulever le voile, comme le fait la peinture elle-même, et trancher dans le vif, comme le Caravage le fait... La différence entre le pinceau et l'épée ou le couteau chez le Caravage, elle est infime. Au fond, ça coïncide. Il s'agit vraiment d'une peinture en guerre, si je puis dire, contre un visible qui nous pétrifie. On connaît tous la Méduse qui est aux Offices à Florence. Le Caravage a toujours peint des têtes qui, si elles sont tranchées assez souvent, sont quand même des têtes qui essayent de ne pas être fossilisées parce qu'il y a de plus médusant dans le réel. Voilà, c'est peut-être ça aussi la peinture. faire en sorte qu'on ne soit pas médusé, qu'on ne soit pas ankylosé, qu'on ne soit pas aliéné.
Georges Duberman, ce soulèvement de Judith.
Ce qui me plaît dans le récit de Yannick Enel, là, à l'instant, c'est qu'il dit que son désir d'écrire vient d'une lacune de l'image, hein, déjà. Ensuite, il voit l'image et qu'est-ce qui nous a été lu ? Là, c'est une description. Alors, écrire commence souvent par décrire. Écrire et décrire, c'est pas la même chose exactement. Comme peindre et dépeindre, c'est pas exactement la même chose. Mais le moment de la description est absolument fondamental. Je ressens moi-même qu'à chaque fois que je commence un travail, la première chose, c'est très modestement de décrire. Ça ne suffit pas. En ce qui me concerne, je recadre ce que je vois. En recadrer, ça veut dire, par exemple, très souvent, en ce qui me concerne, aller faire des photographies. Je fais beaucoup de photographies qui m'aident, en fait, à transformer le décrire en écrire. Parce que ces photographies que je fais, elles me permettent de décadrer la vision immédiate. Ensuite, je remonte tout ça et je commence, j'espère, à écrire. Mais dans l'économie du livre que vous avez fait, il est évident qu'il y a un remontage. Il n'y a pas seulement une description.
Oui, l'idée de montage est très intéressante. Et d'ailleurs, je remarque, quand je vois les dessins de Delacroix, par exemple, les dessins préparatoires, qu'il y a des séquences sur une même feuille, il y a plusieurs séquences. Et qu'ensuite, il y a cette idée du montage. Un ami, Jean-Jacques, passe toujours du montage au montage. On en est un peu là.
Mais Delacroix, c'est très intéressant parce que ses dessins n'ont jamais été montrés de son vivant. Il les conservait vraiment dans son atelier, il ne les vendait pas, il ne les montrait pas. Et effectivement, il superposait sur une même feuille plusieurs éléments. Et j'ai à l'esprit le fait, par exemple, que travaillant sur Médée, la Médée furieuse, hein, motif qu'il a peint trois fois, il ajoutait aussi, à côté de ça, sur une des feuilles, le Saint-Sébastien soigné par Saint-Irène. Donc finalement une autre forme de violence ou d'apaisement de la violence. Et sur une feuille toujours dédiée à Médée, il confondait avec l'enlèvement de Rebecca, inspiré par Walter Scott. Donc là aussi une autre forme de tension et aussi de violence. Et ce qui est très intéressant chez Delacroix, c'est que du coup le dessin comme l'écriture est un processus mémoriel. Et comme il conserve tout par devers lui, toutes ses notes, tous ses dessins, tout cela nourrit l'ensemble de son œuvre avec quelque chose, d'une certaine manière, que Proust a très très bien mis en avant dans La Recherche et que Delacroix avant lui a fait, c'est-à-dire quelque chose où il y a une forme de côté rhapsodique, comme si tout le fil de souvenirs était ainsi entremêlé pour faire des œuvres à chaque fois différentes et à chaque fois aussi portées par son esprit et par sa mémoire.
Les œuvres sont gigognes les unes des autres. Quand on écrit, Yannick Enel, vous avez l'impression que vos romans, vos livres, vos textes, ou en tout cas, en l'occurrence, ces trois livres dont nous parlons, dont la forme n'est pas résumable tellement à un mot, vous avez l'impression que ça s'enchaîne ?
Mais je crois que les genres, ça n'existe pas, c'est une invention négative, si je puis dire. Tout est débordement, enfin, et tout afflue depuis toujours. C'est très beau ce dont vous parliez, de la migration des œuvres. Parce que c'est évidemment un acte politique. Enfin, mais il y a cette migration est parfois inconsciente. Il y a toute grande œuvre, tout grand tableau est porteur d'une mémoire infinie. Ça revient, qu'on le veuille ou non. Moi, je suis allé jusqu'à penser qu'il y avait de la peinture antique romaine. Il y avait un peu de Pompéi dans les fonds noirs du Caravage. Le Caravage n'a jamais vu la Villa des Mystères. Et pourtant, c'est là.
C'est un peu ce que vous disiez sur la façon dont ça s'enchaîne, Georges Duberman.
Il y a déjà eu deux exemples depuis une heure de sources qui n'étaient pas connues, puisque à propos de Delacroix et de la victoire de Samothrace, et Abby Warburg parle d'œuvres influencées par le Laocoon qui était encore sous la terre. Donc, mais ça veut dire que les transmissions ne sont pas seulement conscientes. Les transmissions, elles sont multiples, c'est des rhizomes, c'est très souvent inconscient. C'est la différence entre une tradition consciente et ce que Warburg a appelé une survivance. En fait, moi, je travaille sur l'idée de survivance des motifs et des formes.
La survivance des images, c'est parfois simplement retrouver la pulsion la plus ancienne possible de quelque chose qui est strictement humain et qui a un devenir image. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique?
Moi, je pense que c'est ce qui touche. Je crois que la survivance des images, c'est penser quelque chose qui va au plus profond de nous-mêmes. Donc, et je pense que Delacroix le fait très profondément, notamment dans sa manière du jaillissement de la couleur. C'est-à-dire quelque chose, si je reviens au Sardanapale, je pense que la puissance de cette image du Sardanapale, c'est la vibration, et c'est la vibration d'une certaine manière, ce côté tournoyant des rouges et des jaunes qui nous entraînent au-delà de tout sentiment.
C'est une chose curieuse dans les trois œuvres, c'est la puissance de la couleur, parce que c'est vrai aussi pour la photographie de la Madone du Kosovo.
Oui. La couleur est un élément fondamental de toute cette histoire. Mais je reviens à l'idée, il y a des survivances, mais ce qui est intéressant, je reviens à ce thème de la liberté d'être soi, c'est que ça va vers un futur. Ça demande de l'avenir, ça exige de l'avenir, c'est ça qui est beau.
Mais comme le disait tout à l'heure Yannick, les têtes coupées peintes de Caravage ou de Delacroix, hein, puisque la Madeleine que Baudelaire aimait tellement est aussi une tête coupée, ne sont pas des têtes de pierre, ce sont des têtes de chair. Donc ça va vers demain.
Merci de terminer avec la chair, en plus d'un tableau magnifique qui se trouve au petit musée de la Croix, qui est son ancienne habitation, place Furstenberg, à Paris. Merci infiniment Dominique de Fonréau, merci Yannick Hennel, merci Jordi Duberman.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était en direct du Salon du Livre, L'art et la matière, par Jean Deloisy, en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Dominique de Fonréau, conservatrice générale des musées de France, pour son livre « Delacroix, la liberté d'être soi » aux éditions Cohen-Cohen. Yannick Hennel, pour son très beau livre « La solitude Caravage ». Et Georges Duberman pour deux livres, en fait, « Désirer et désobéir », ce qui nous soulève aux éditions de minuit, et dont celui dont nous avons le plus parlé aujourd'hui, « Ninfa Dolorosa », essai sur la mémoire d'un geste, paru chez Gallimard. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Lecture des textes, la belle voix de Lara Brulle. Merci Lara. Une émission préparée par Héloïse Alluin et conçue en collaboration avec Seam Boutata. Chargée de production Rémi Gouriou. Prise de son et sonorisation Élise Leu et Sébastien Huel. Réalisation, comme toujours, Franck Lilin. La semaine prochaine, nous parlerons de l'Africain sous l'œil des Lumières, le modèle noir de Géricault à Matisse au musée d'Orsay.